commercial Cube.radio. La rencontre du rocher du trisac.
Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantent?
Une dualité qui rassemble les idées.
Ben non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là.
Non.
Prends soin de toi, là.
Oui, hein, tu me protèges. Je le sais.
Compte toi-même.
La rencontre du rocher du trisac.
Écoute, Benoît, quand je parle.
Hey, Sophie, bonjour.
Oh,
mon Dieu. Hey, ça va être bon, ça. Juste des téléromans avec des avatars d'intelligence artificielle.
Voilà. Alors, écoute, c'est un des textes le plus lu sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que je pense que ça touche beaucoup les gens. Des comédiens qui sonnent l'alarme parce qu'ils disent que l'intelligence artificielle est une réelle menace. Donc, je replace juste le contexte. Cette semaine, tout le monde ne parle que de ChatGPT et l'intelligence artificielle en général, parce que, je le rappelle, donc il y a 1000 personnes, des
spécialistes. Pas loin de 2000,
ouais, bon, tu vois, 2000, merci de me mettre au courant. Donc, 2000 personnes du monde des technologies en général, ça va de Elon Musk au spécialiste québécois Joshua Benjo, donc qui ont signé une lettre ouverte en disant « Attention, les amis, c'est vraiment une grosse sonnette d'alarme, l'intelligence artificielle, faudrait absolument prendre une pause d'au moins 6 mois parce que ça va trop vite. On a créé un monstre et le monstre est hors de contrôle. C'est un petit peu Frankenstein, là. Tu sais, on a patenté différentes affaires, mais le produit de ce qu'on a créé ne correspond pas, ne réagit pas selon nos attentes.
Benjo, en 2018, l'avais reçu au Frontière, il disait arrêtez de capoter, là, c'est de la science-fiction. L'intelligence artificielle a l'intelligence d'une grenouille.
Ben là,
et
non.
5 ans plus tard, Sophie, il est le premier signataire de cette lettre-là.
Ouais.
Avant Elon Musk, et il y a Valérie Pisano, qui est la boss de Mila aussi, qui a signé cette lettre. Dans les 6-7 premiers, là.
Ouais.
Fait qu'il y a une alarme qui est sonnée, puis ça part de Montréal.
Ben, tout à fait. Et ça fait extrêmement peur, parce que dans cette fameuse lettre, les différents scénarios qui sont envisagés, c'est évidemment des scénarios de propagande. Parce que, qu'est-ce que c'est ChatGPT et l'intelligence artificielle en général, c'est que c'est une patente à gosse qui régurgite ce que tu lui donnes. Donc, on en a déjà parlé ensemble, toi et moi, si tu la nourris de notions woke, ben, elle va régurgiter du woke. Mmh. Mais si tu la nourris, cette machine-là, de notions d'extrême droite ou de notions criminelles dans un but de commettre des crimes, ben, c'est ça qu'elle va régurgiter.
Hier, Eve Gaumont, qui est une chercheuse, me disait, le grand succès de ChatGPT, c'est d'avoir mis des filtres pour éviter tous les discours d'extrême droite comme ça.
Mais supposément. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, Benoît, parce que je te l'ai déjà raconté, à mon émission, Guy Nantel avait fait un certain nombre de tests où il avait demandé, par exemple, à ChatGPT, fais-moi une blague sur Donald Trump. ChatGPT l'a fait. Et quand il a demandé, fais-moi une blague sur Justin Trudeau, il a dit non, je fais pas de politique. Donc, je veux dire, peut-être qu'en effet, ChatGPT considère peut-être que Donald Trump, c'est de l'extrême droite.
ChatGPT a pas compris le concept de deux poids, deux mesures.
De deux poids, deux mesures. Et aussi, à un moment donné, donc, Guy Nantel avait demandé à ChatGPT, fais-moi l'éloge de Justin Trudeau. ChatGPT s'est exécuté. Justin Trudeau est un premier ministre progressiste pour l'égalité homme-femme. Ceci, cela, beding, bedang. Et quand il lui a demandé à ChatGPT de faire l'éloge de Donald Trump, il a dit non, je fais pas de politique. Donc, ben, tu fais pas de politique dans un cas, mais t'en fais dans l'autre. Bref, tout ça pour dire que là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est cette préoccupation des comédiens qui sonnent l'alarme en disant, bon, c'est pas ChatGPT, mais c'est l'intelligence artificielle en général qui fait en sorte que, de plus en plus, pour du doublage, par exemple, ben, t'as juste, à partir du moment où ton texte est écrit, au lieu de confier ça à un comédien spécialisé en doublage, tu confies ça à un logiciel de reconnaissance vocale, donc qui va imiter la voix humaine, ou même qui va aller chercher dans une banque de voix déjà existantes et qui va te patenter un Tom Cruise et qui va te faire la version française de Top Gun. Et donc, les comédiens tirent la sonnette d'alarme en disant, bientôt, nous qui faisons du doublage, on n'aura plus d'emploi. Et ça devient inquiétant même pour tout ce qui est des voix, ce qu'on appelle des voice-overs, là, toutes les narrations, tous ces trucs-là où tu ne vois pas le visage de la personne. Mais même voir le visage de la personne, bientôt, c'est ça que ça va être. Ouais. Parce que honnêtement, tu vas voir un film comme, mettons, Avatar ou d'autres. Il y a des fois, moi, je regarde, par exemple, les jeux vidéo auxquels joue mon fils. Je te le dis,
c'est
Benoît.
Fou, hein?
Ça fait capoter.
Bon, oui, c'est fou.
Ça fait capoter. En plus, nous, on a une grosse télé à la maison. Donc, moi, je m'approche de l'écran et il faut que mon fils le dise, maman, c'est pas des comédiens, c'est des... Parce que, écoute, les poils sur le visage, dans les moindres détails, et l'expression. Parce que, tu sais, au début, c'était un petit peu comme ça, là, c'était un peu robotique.
Ouais.
Mais là, tu vois l'émotion sur le visage.
J'ai joué au basketball avec mon plus jeune.
Ouais.
Puis les joueurs, je te jure, là, sont à ça d'être réels. C'est vraiment, vraiment impressionnant dans
c'est
tous les mouvements.
Capotant.
Les mouvements au basketball. Mais là, est-ce que cette alerte-là pour le doublage, est-ce qu'elle est basée sur des faits ou des données ou...
Mais c'est-à-dire qu'en fait, le mouvement est déjà amorcé. C'est qu'il y a déjà des grands studios qui, au lieu d'engager réellement un comédien, ont recours à une voix artificielle. Donc, eux, ils tirent la sonnette d'alarme maintenant en disant, ben, tu sais, en plus, au Québec, c'est particulier aussi parce que on a toujours défendu le fait que les films qui étaient diffusés au Québec devaient être doublés au Québec par des comédiens québécois, qu'on voulait pas avoir les versions doublées par des Français qui disaient, ouais, sors ton flingue, mon pote, je vais te buter. C'est pas comme ça. On a toujours défendu cette société distincte, les différences culturelles du Québec. Mais là, avec des logiciels qui font le boulot à leur place, ben, on s'en contrefiche de la différence culturelle.
Tu me fais penser au dernier film.
T'as vu comment j'ai dit culturel, là?
Ouais.
Là, c'est mon vieux fond bordelais qui remonte à la surface.
Je le remonte pas, là.
Tu l'embrasses.
Je suis d'une tolérance immense.
Tellement inclusif.
Merci. Mais pense au dernier film de Scorsese.
Oui, où il avait vieilli, rajeuni les comédiens.
De Niro.
Oui.
Écoute, t'es dans le vrai et le faux, tu sais plus.
Tu ne sais plus. Et c'est ça que fait cette technologie-là, qui a énormément d'avantages. Il y a plein d'avantages à l'intelligence artificielle.
On vieillit plus. On vieillira plus.
Non, mais c'est aussi qu'il y a plein de tâches répétitives, de tâches routinières, tâches plates, dont on est très content de se débarrasser et de les confier à l'intelligence artificielle. Il y a plein de patentes qu'on n'a pas envie de faire. Puis on dit, ben, que l'intelligence artificielle le fasse. Nous, on va se concentrer sur les vraies affaires. Mais c'est quand l'intelligence artificielle commence à nous remplacer dans les vraies affaires, entre guillemets, c'est
mais
là qu'on commence à s'inquiéter.
Là, ton gars, là,
il y a 15 ans,
Je le sais, fait 15 fois tu m'as dit calvaire. Je le sais, il y a 15 ans,
mais
ton
calme-toi.
Gars.
Calme-toi.
Mais
pourquoi tu dis calvaire? Parce que.
Tous nos enfants.
Mon Dieu,
là,
c'est vendredi, Benoît.
Le tien est comme les autres, là.
Oui.
Ils sont tous prêts avec les algorithmes, entre autres sur TikTok.
Mais c'est absolument vrai.
Mais moi, ça me rend fou parce qu'ils sont. Hier, là, Mme Gaumont, là, la chercheuse, me dit oui, mais on a toujours été dans des magazines. Puis je dis non. Magazine, t'avais un début, t'avais une fin, tu lisais le magazine, tu le posais. Nos enfants sont sur TikTok et c'est sans fin.
Mais c'est sans fin.
C'est sans fin. Ils deviennent complètement fous.
Mais c'est des écureuils sur un triple expresso. C'est absolument hallucinant. Ou Benoît Dutrisac, un vendredi après-midi, qui est tanné parce qu'il y a sa semaine dans le corps.
Peut-être.
La mèche est courte.
Ah oui, mais j'arrête. À 1h30, tout est arrêté.
Mèche est courte.
Là, ça finit plus. Nos enfants sont pognés dans un
espèce de labyrinthe. Mais on est en train de reprogrammer leur cerveau.
Oui.
Le cerveau humain. Moi, mon fils, quand il avait 2 ans et demi, le iPad est arrivé. Alors, la nouvelle génération, ils naissent avec un iPad dans les mains. Donc, mon fils, heureusement, il avait déjà 2 ans et demi. Mais on l'a vu, la facilité avec laquelle... Nous, on reçoit un iPad, Richard et moi, on commence à jouer avec ça, on essaie de comprendre les fonctions. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On avait, mettons, 45 ans à l'époque. Et là, mon fils, on lui donne l'iPad, ça a pris exactement 3 secondes, il a trouvé toutes les fonctions, il avait ça. 2 ans et demi, tac, 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 tac. Donc, c'est en train, eux, leur façon d'appréhender le monde, ne plus rien avoir.
En même temps, vaut mieux qu'ils maîtrisent la technologie, qu'ils soient des touristes. Fait que c'est un méchant dilemme. Et là, c'est drôle, je parlais de ça avec Maria Mourani qui me parlait de l'aspect criminalité et intelligence artificielle. Oui. Et là, il va falloir qu'on se pose des questions sur notre humanité.
Oui, sur notre humanité. Puis moi, je te parle des comédiens. Donc, notre créativité aussi. Parce que tu ne me diras pas qu'un logiciel de reconnaissance de la voix qui est allé faire de l'échantillonnage. T'as vu que j'ai pas dit sampling?
Très, très bien.
Qui est allé faire de l'échantillonnage, qui est allé chercher un petit peu de la voix de l'un mélangée avec la voix de l'autre. T'as vu, j'ai pas dit mixer. Non, mais le faucon pèlerin mène ma vie maintenant.
Ouais,
bon, alors tu me diras pas que ça, ce résultat-là, va avoir la même... Un grand comédien, c'est un grand comédien, Benoît.
C'est tout. Ça,
je veux dire, c'est un comédien qui a de l'émotion, qui a du véhicule, pour l'instant.
Pour l'instant. As-tu ça pas loin, notre version de la pub du faucon pèlerin?
Ah, on va demander à Max, puis pendant ça, il faut faire du temps.
Mets tes écouteurs, il va nous faire jouer tout ça. Maxime, tu l'as?
Vous l'avez refait?
Le faucon pèlerin.
OK.
Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill.
Je l'entends pas, moi.
C'est ça, ton faucon pèlerin. C'est Fitz Gibbons qui est parti à la chasse, puis il t'a le poigné.
Mais habillé en autrichien. Habillé en autrichien.
Hein? Ah, c'est assez. On t'écoute à 2h30 en passant. Merci.
Puis il n'y a pas un mot sur mes cheveux. J'étais blonde,
magnifiques.
Je suis rendue brune.
T'es belle, ça te fait bien. La coiffure est belle, tes cheveux se tiennent bien.
Ils sont en santé.
Sont très beaux. C'est très
Alexandre
beau.
Est d'accord. Merci, les garçons.
Fait plaisir.